Le télétravail. Alors, je peux te dire que c'est un sujet de discussion chez beaucoup de nos auditeurs parce que là, d'abord, ils attendent de voir un peu quelles seront les stratégies de l'employeur à l'automne. Tout le temps télétravail, un petit peu de présentiel. Tu penses quoi de ça, toi?
Moi, je pense que c'est une nouvelle opportunité de faire du double emploi.
C'est-à-dire?
Et là, écoute, il y a des employeurs qui ne me montrent peut-être pas ce matin, mais quand tu es employé dans un bureau, tu peux être inefficace une partie du temps, mais tu fais ton présentéisme. C'est-à-dire que ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Mais des fois, tu ne dirais pas, je vais faire du double emploi. C'est-à-dire que je vais prendre des appels d'un autre emploi ou je vais faire du développement des affaires ailleurs. Tu vas te faire prendre, soit par le système informatique, soit par tes courriels, soit par tes collègues ou ton patron. Mais le télétravail à la maison, ça ouvre la porte à dire, OK, je m'engage à faire une tâche raisonnable pour toi, employeur A, mais en même temps, j'ai envie de devenir, courtier hypothécaire. J'ai envie d'être d'un côté représentant ou courtier en assurance. J'ai envie d'avoir deux emplois, mais personne ne va le savoir dans mes deux employeurs. Je vais séparer ça. Évidemment, si tu as une visibilité publique dans ton deuxième emploi, c'est plus difficile, mais il n'y a rien qui prouve que tu le fais sur les heures de bureau. Et donc, le télétravail ouvre la possibilité à ce qu'on appelle dans le jargon des « slashers », des gens qui cumulent plusieurs emplois parce que tu élimines des déplacements. Le monde du travail accepte de faire des rencontres Zoom, donc même des clients peuvent accepter quand tu fais de la représentation. Et tu peux peut-être maintenant mieux cumuler deux emplois à temps partiel, c'est-à-dire, j'aurais pas pris cet emploi-là à 25 heures semaine puis celui-là à 15 heures, mais comme je peux en faire un de chez nous, là j'ai la possibilité d'aller travailler à Quincaillerie l'après-midi puis de faire du commis de bureau le matin. Je te donne un exemple.
Mm-hmm.
Et donc ça va amener deux comportements. Le comportement A, de le faire en le disant à son patron, ou le comportement B, de le faire sans le dire à son patron. Parce qu'on est habitué d'avoir des gens en double emploi dans certains secteurs. Par exemple, les pompiers.
On suit des, ouais, puis des policiers, agents d'immeubles.
Exact. T'sais. Mais ton employé qui dit qu'il fait 30-35 heures pour toi, qu'est-ce qui empêche de faire un autre 20 heures sur ses heures personnelles? Rien. Et donc, il y aura un libre arbitre. Est-ce que les employeurs vont dire, tu te mets pas en situation de double emploi ou de simple emploi? Il y en a beaucoup qui s'est écrit, vous n'avez pas le droit, mais si je le fais sur mes heures personnelles, quand je suis en télétravail, quelles sont maintenant mes heures personnelles? Là, on parle ce matin de la géolocalisation, mais imagine où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et en éliminant des déplacements, en pouvant cumuler des tâches ménagères, en plus, en faisant de la gestion de colis à la maison, tu n'as plus le stress du transport, tu n'as plus le stress des enfants, tu n'as plus le stress que s'il y a un problème de tes enfants à l'école d'aller le chercher, tu es en télétravail. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont orienter leur carrière maintenant de ce côté-là. Ils vont voir la liste des avantages puis ils vont dire, attends une minute, je peux vivre à un autre endroit, je peux plus facilement concilier mon travail et ma famille, puis je peux avoir du double emploi. Je te le dis, là.
Le 10 heures perdu dans le trafic, là.
Ah, le 10 heures, là, c'est beau, là. Le 10 heures perdu dans le trafic, le 3 quarts d'heure perdu chaque jour à avoir des discussions de bureau, de comment ça va, ouais, ta mère, ton frère, ouais, ça va. Hey, j'ai fait un party en fin de semaine. Tout ça, c'est fini, là. Tu sauves du temps. Les lunchs pour les enfants, le travail. Tu peux te partir à mijoter pendant que tu fais une conférence. C'est sûr que c'est plus solitaire.
Oui.
Mais il y a beaucoup d'avantages.
Bon, maintenant, le NPD qui fait des promesses aux étudiants, on parlait d'élections tantôt avec Bernard, ben c'est quoi là? C'est 4 milliards de promesses juste pour les étudiants?
Eh oui, écoute, c'est le directeur parlementaire au budget qui a dit, écoutez, là, ça va coûter jusqu'à 4 milliards les promesses du NPD, mais moi je voulais amener l'angle économique de la justice. Parce que oui, tu achètes des votes en faisant du clientélisme, en achetant une partie de la population en leur disant « on va reporter tes paiements, on va éliminer une partie de ta dette, peu importe ce que tu fais ». Mais le prêt étudiant, c'est aussi un ticket modérateur. Le coût au Québec qui est faible, au Canada, c'est plus élevé, mais tu as déjà des avantages fiscaux comme au Québec, tu as l'intérêt qui donne droit à un crédit d'impôt. Donc, ton prêt étudiant, l'intérêt, c'est vraiment pas cher. C'est le dernier prêt que tu devrais payer parce que c'est celui qui est subventionné par l'État, par toutes les lois, par exemple la loi sur l'aide financière aux études et les autres fédérales aussi. Et il n'y a pas de lien excessif entre la pandémie et la dette étudiante. Ça, c'est l'autre affaire. Si tu as une dette étudiante de 10 000, c'est pas la pandémie qui a fait que tu as une dette étudiante de 10 000. Et donc, quand on parle qu'on pourrait effacer jusqu'à 20 000 de dette étudiante, ça crée une certaine disproportion sociale. Il y a du monde qui a 5 ans, ils ont remboursé leur prêt, puis là, tu leur dis, « Hey, toi, t'as passé 5 ans à rembourser tes prêts, ceux d'après, on leur rembourse. » Ça, c'est un problème. L'autre point, c'est de se dire, les dettes étudiantes, là, c'est pas juste une affaire de gouvernement. Moi, Paul, je n'ai pas eu pendant mon bac des prêts étudiants du gouvernement. Mais la banque, j'étais loadé, par exemple. Et donc, comme j'avais pas de droit au prêt étudiant, mais que j'avais besoin d'argent, je suis allé à la banque. Et la banque m'a prêté une coupe de mille, genre 6 ou 7 000 $. Et si je regarde le programme du NPD, j'aurais pas été couvert, parce que c'était pas un prêt étudiant. C'était un prêt d'un étudiant à la banque. Et comme les mécanismes sont pas les mêmes d'une province à l'autre, imagine, on décide de rembourser les prêts étudiants au Canada, puis là, le monde au Québec lève la main et dit hey, « nous autres, on finance nos universités, on finance nos frais de scolarité, on finance nos étudiants, vous allez rembourser plus de gens au Canada parce que nous, on paye, ça va prendre un paiement compensatoire. » Et comme je te dis, comme la dette étudiante, c'est la meilleure dette et la moins chère, est-ce que c'est un acte électoral ou c'est vraiment un acte générationnel important qui a un impact sur la relance économique? C'est ça la question.
Je te dirais que ces jours-ci, pas mal tous les gestes posés ont une saveur électorale.
C'est un chèque avec une fleur du Canada.
Habituellement,
quand
tu es à la veille d'une élection, là, c'est pas mal ça.
J'ai une proposition, moi. Un chèque pour les comptables qui ont souffert pendant la pandémie. C'était une blague.
OK. J'attendais que tu le dises.
Salut.
Salut. 7h23. La métropolitaine.